Chapitre 7. La statue abattue. Dans l'obscurité de mon faucon, où les chaînes grinçaient, des voleurs, la nuit suivante, dépendirent le mort illustre pour le dépouiller. Au matin, on trouva le corps de Marigny couché nu sur la pierre. Monseigneur de Valois, qui était encore au lit quand on l'en vint avertir, commanda de rhabiller le cadavre et de le rependre. Puis lui-même se vêtit, et bien vivant, mieux vivant que jamais, tout gonflé de sa force intacte, il partit se mêler au mouvement de la ville, au trafic des hommes, à la puissance des rois. En compagnie du chanoine de Mornay, son ancien chancelier, qu'il avait fait nommer garde des Sceaux de France, il gagna le palais de la cité. Dans la galerie Mercière, marchands et badauds observaient quatre ouvriers maçons perchés sur un échafaudage et qui décelaient la grande statue d'Enguerrand de Marigny. Elle tenait à la muraille, non seulement par le socle, mais par le dos. Les pics et les burins frappaient la pierre qui volait en éclats blancs. Une fenêtre intérieure qui donnait vue sur l'ensemble de la galerie s'ouvrit. Valois et le chancelier apparurent à la balustrade. Les badauds, apercevant leur nouveau maître, ôtèrent leur bonnet.
« Continuez, bonnes gens, continuez à regarder, c'est bon travail que l'on fait là !»
lança Valois en adressant à la petite foule un geste engageant. Puis, se tournant vers Mornay, il lui demanda
« Avez-vous achevé l'inventaire des biens de Marigny ?»«
J'ai achevé, monseigneur, et le compte en est assez gras.
Je n'en doute point, » dit Valois.
« Ainsi le roi va se trouver en fonds pour récompenser ceux qui l'ont servi en cette affaire, » dit Valois.
« Tout d'abord, j'exige retour de ma terre de Gaillefontaine, que le coquin m'avait prise par du prix dans un mauvais échange. Cela n'est point récompense, c'est justice. D'autre part, il conviendrait que mon fils Philippe disposât enfin d'un hôtel en propre et qu'il eût son train personnel. » Marigny possédait deux maisons, celle des Fossés Saint-Germain et celle de la rue d'Autriche. J'incline pour la seconde. Je sais aussi que le roi veut faire quelques libéralités à Henriet de Meudon, son veneur, qui lui ouvre ses paniers à Colombes. Notez donc ce désir. Ah, surtout, n'oubliez pas que Monseigneur d'Artois attend depuis 5 ans les revenus de son comté de Beaumont. C'est l'occasion de lui en remettre une part. Le roi a de grandes dettes envers notre cousin d'Artois.
Le roi va devoir aussi, dit le chancelier, offrir à sa nouvelle épouse les présents d'usage, et il semble décidé, dans l'amour qu'il a, aux plus grandes largesses. Or, sa cassette n'est guère en état d'y subvenir. Ne pourrait-on prendre sur les biens de Marigny les faveurs qui seront attribuées à notre nouvelle reine?
C'est sagement pensé, Mornay. Préparez un partage en ce sens, où vous placerez ma nièce de Hongrie en tête des bénéficiaires. Le roi ne pourra qu'y souscrire. »
Valois, tout en parlant, continuait de regarder le travail des maçons.
« Et bien sûr, monseigneur, reprit le chancelier, je me garderai de rien demander pour moi-même. Et en cela, vous agirez bien, Mornay, car de méchants esprits auraient beau jeu de dire qu'en poursuivant Marigny, vous ne cherchiez que votre profit. » Faites donc grossir un peu ma part, afin que je vous puisse gratifier à proportion de vos mérites.
Ah ! Elle a bougé !
Ajouta Valois en pointant le doigt vers la statue. La grande effigie de Marigny était maintenant complètement décollée du mur. On l'entourait de cordes. Valois posa sa main baguée sur le bras du chancelier.
L'homme en vérité est créature étrange, dit-il. Savez-vous que soudain, j'éprouve comme un vide de l'âme. J'avais si fort accoutumé de haïr ce méchant qu'il me semble à présent qu'il va me manquer. »
À l'intérieur du palais, Louis X, dans le même moment, achevait de se faire raser. Auprès de lui se trouvait Dame Adeline, rose et fraîche, tenant par la main une enfant de 10 ans, blonde, un peu maigre, intimidée, et qui ne savait pas que ce roi, dont on séchait le menton à l'aide de toiles chaudes, était son père. La première lingère du palais attendait, émue, pleine d'espoir, d'apprendre la raison pour laquelle Louis les avait mandés, elle et sa fille. Le barbier sortit en portant bassins, rasoirs et onguents. Le roi de France se leva, secoua ses longs cheveux autour de son col et dit
Mon peuple est content, n'est-il pas vrai, Eudeline, que j'ai fait pendre Marigny ?
Certes, monseigneur Louis. Sire, je veux dire. Chacun se plaît à croire que les temps du malheur sont finis.
C'est bien, c'est bien. Je veux qu'il en soit ainsi.
Louis X traversa la chambre, se pencha sur un miroir, étudia son visage quelques instants, se retourna.
Je t'avais promis d'assurer l'établissement de cet enfant. Elle s'appelle Eudeline, comme toi.
Des larmes d'émotion vinrent aux yeux de la lingère, et elle pressa légèrement l'épaule de sa fille. Eudeline, la petite, s'agenouilla pour entendre de la bouche souveraine l'annonce des bienfaits.
Sire, cet enfant vous bénira jusqu'à son dernier jour en ses prières.
C'est justement ce que j'ai décidé, répondit le hutin. Quel prix !
Elle entrera en religion au couvent de Saint-Marcel, qui est réservé aux filles nobles, et où elle sera mieux que nulle part.
La stupeur parut sur les traits d'Eudeline, la mère.
Est-ce donc cela, sire, que vous voulez pour elle ? La cloîtrer ?
Eh quoi ? N'est-ce pas un bon établissement ? Dit Louis. Et puis, il faut que cela soit. Elle ne saurait rester dans le monde, et je trouve bon pour notre salut et pour le sien qu'elle rachète par une vie de piété la faute que nous avons commise en sa naissance.
Quant à toi, monseigneur Louis, m'enfermerez-vous aussi au cloître ?
Demanda Eudeline avec effroi. Comme le hutin avait changé en peu de temps, elle ne retrouvait plus rien en ce roi qui dictait ses ordres d'un ton sans réplique, ni de l'adolescent inquiet auquel elle avait appris l'amour, ni du pauvre prince grelottant d'angoisse, d'impuissance et de froid qu'elle avait encore réchauffé dans ses bras un soir de l'hiver passé. Les yeux seuls gardaient leur expression fuyante.
« Pour toi, dit-il, je vais te donner charge de surveiller à Vincennes le meuble et le linge pour que tout soit prêt chaque fois que j'y viendrai. »
Eudeline hocha la tête. Cet éloignement du palais, cet envoi dans une résidence secondaire, elle les ressentait comme une offense. N'était-on pas satisfait de la façon dont elle tenait son office ? En un sens, elle eût mieux accepté le couvent. Son orgueil eût été moins blessé.
« Je suis votre servante et vous obéirai, » répondit-elle froidement.
Elle invita Eudeline la petite à se relever et lui reprit la main. Au moment de franchir la porte, elle aperçut le portrait de Clémence de Hongrie posé sur une crédence et demanda.
« C'est elle ?»«
C'est la prochaine reine de France, » répondit Louis X, non sans hauteur.
« Soyez donc heureux, sire, »
dit Eudeline en sortant. Elle avait cessé de l'aimer.
Certes, certes, je vais être heureux, se répétait Louis, marchant à travers la chambre où le soleil entrait à grands rayons.
Pour la première fois depuis son avènement, il se sentait pleinement satisfait et sûr de soi. Il s'était délivré de son épouse infidèle, délivré du trop puissant ministre de son père. Il éloignait du palais sa première maîtresse et envoyait sa fille naturelle au couvent. Tous les chemins nettoyés, il pouvait maintenant accueillir la belle princesse napolitaine et se voyait déjà vivre auprès d'elle un long règne de gloire. Il sonna le chambellan de service.
« J'ai fait mander messire de Beauville. Est-il arrivé ?»«
Oui, sire, il attend vos ordres. »
À ce moment, les murs du palais vibrèrent sous un choc sourd.
« Qu'est-ce ci ? » demanda le roi.
« La statue, je pense, sire, qui vient de tomber.
» C'est bien. Dites à Beauville d'entrer.
Et il se disposa à recevoir l'ancien grand chambellan. Dans la galerie mercière, la statue d'Enguerrand gisait sur le pavement. Les cordes avaient glissé un peu vite et les 20 quintaux de pierre avaient brutalement heurté le sol. Les pieds étaient rompus. Au premier rang des badauds, Spinello Tolomei et son neveu Guccio Baglioni contemplait le colosse abattu.
J'aurais vu cela,
murmurait le capitaine des Lombards. Il n'affichait pas, comme Monseigneur de Valois du haut de la fenêtre à balustrade, un triomphe ostentatoire, mais sa joie non plus ne se teintait pas de mélancolie. Il éprouvait une bonne satisfaction bien simple et sans mélange.
Tant de fois, sous le gouvernement de Marigny, les banquiers italiens avaient tremblé pour leurs biens et même pour leur peau. Messer Tholomei, un œil ouvert, l'autre fermé, respirait l'air de la délivrance. « Cet homme-là vraiment n'était pas notre ami, » dit-il. « Les barons se font gloire de sa chute, mais nous avons pris bonne part à ce travail. Et toi-même, Guccio, tu m'y as bien aidé. Je tiens à t'en récompenser et à t'associer mieux à nos affaires. As-tu quelques souhaits ?» Il s'était mis à marcher entre les éventaires des merciers. Guccio abaissa son nez mince et ses cils noirs. « Oncle Spinello, je voudrais gérer le comptoir de Naufles. »«
Eh quoi ?» s'écria Tholomei tout surpris. « Est-ce là ton ambition ? Un comptoir de campagne qui fonctionne avec 3 commis bien suffisants pour leurs tâches ? Tu as de petits rêves. »
« J'aime assez ce comptoir, » dit Guccio, « et je suis sûr qu'on pourrait fort l'agrandir. »«
Et je suis bien sûr, moi, » répondit Tholomei, « que c'est l'amour plutôt que la banque qui t'attire de ce côté. »«
La demoiselle de Cressay, n'est-ce pas ? J'ai vu les comptes. Non seulement ces gens-là sont nos débiteurs, mais en plus, nous les nourrissons. »
Guccio regarda Tholomei et vit qu'il souriait.
« Elle est belle comme aucune, mon oncle, et de bonne noblesse. »«
Ah !» soupira le banquier en élevant les mains. « Une fille de noblesse. Tu vas te mettre dans de gros ennuis. La noblesse, tu sais, est toujours prête à nous prendre de l'argent, mais guère à laisser son sang se mêler au nôtre. La famille est-elle d'accord ?»«
Elle le sera, mon oncle. Je suis certain qu'elle le sera. Les frères me traitent comme un des leurs. »
Traînée par 2 chevaux de trait, la statue de Marigny sortait de la galerie mercière. Les maçons enroulaient leurs cordes et la foule se dispersait.
« Marie m'aime autant que je l'aime, » reprit Guccio, « et vouloir nous faire vivre l'un sans l'autre, c'est vouloir nous faire mourir. Avec les gains nouveaux que je tirerai de Naufles, je pourrai réparer le manoir, qui est beau, je vous assure, mais qui mérite un peu de travail. Et vous viendrez vivre dans un château, mon oncle, comme un vrai seigneur. »
« Moi, tu sais, je n'aime pas la campagne, » dit Tholomei. « S'il m'arrive une fois l'an d'avoir affaire à Grenelle ou à Vaugirard, je m'y sens au bout du monde et vieux de 100 ans. J'avais rêvé pour toi une autre alliance, avec une fille de nos cousins Bardis. »
Il s'interrompit un instant.
« Mais c'est mal aimer ceux qu'on aime que de vouloir faire leur bonheur malgré eux. Va, mon garçon, va t'occuper de Naufles et marie-toi comme il te plaît. » Les Siennois sont des hommes libres, et l'on doit choisir son épouse selon son cœur. Mais amène ta belle à Paris le plus tôt que tu pourras. Elle sera bien accueillie sous mon toit.
« Merci, oncle Spinello !»
dit Guccio en se jetant à son cou. Le comte de Bouville, sortant de chez le roi, traversait alors la galerie mercière. Le gros homme avançait de ce pas ferme qu'il prenait lorsque le souverain lui avait fait l'honneur de lui donner un ordre.
« Oh, ami Guccio !» s'écria-t-il en apercevant les 2 Italiens. « C'est chance que de vous rencontrer ici. J'allais dépêcher un écuyer à vous quérir. Que puis-je pour vous servir, messire Huguet ?» dit le jeune homme. « Mon oncle et moi sommes tout à vous. »
Bouville souriait à Guccio avec une réelle expression d'amitié.
« Je vous apprends une bonne nouvelle. Oui, une très bonne nouvelle. J'ai dit au roi vos mérites et combien vous m'étiez utile. »
Le jeune homme s'inclina en signe de remerciement.
« Alors, ami Guccio, nous repartons pour Naples !»